sur Campus Mag, sur Radio Campus Pau, 98.8 sur vos radios. Nous nous retrouvons ce mardi 9 janvier avec Benoît.
Salut à tous.
Et moi-même, Hélène. Au programme aujourd'hui, un tour des actualités internationales et locales.
Nous allons commencer par faire un tour rapide de l'actualité internationale. Au Luxembourg, les frontaliers qui reviennent travailler en France pour échapper aux embouteillages. En effet, c'est un changement de paradigme qui se dessine en Lorraine. Le maire de Thionville, Pierre Cuny, est convaincu que de nombreux frontaliers ne veulent plus envisager toute leur carrière au Luxembourg. Dans cette agglomération de Moselle, plus de 40% de la population travaille de l'autre côté de la frontière. Néanmoins, depuis la pandémie du Covid-19, de nombreux frontaliers ont décidé de revenir plonger leur carrière professionnelle en France, privilégiant ainsi la qualité de vie au salaire, rapporte Le Parisien le 6 janvier. Comme de nombreux habitants de la région, Marjorie Blanru, 44 ans, et Karine Hein, 42 ans, infirmière, illustrent ce choix de retour à une vie moins intéressante et moins stressante. Chaque jour, près de 80 000 Mosellans envahissent les routes et les rues pour se rendre au Luxembourg, ce qui provoque d'importants ralentissements. Les trains sont également bondés malgré les efforts de la région Grand Est pour trouver des solutions. Les contraintes de transport, le stress du trajet quotidien et les longues journées de travail ont eu raison des avantages financiers d'une carrière au Luxembourg. Aujourd'hui, les deux infirmières travaillent à Yutz, près de Thionville. Elles reconnaissent que leur salaire pourrait être le double au Luxembourg, mais la qualité de vie a un prix. Elles peuvent désormais passer du temps avec leurs enfants et s'offrir des jours de repos en semaine. Elles jugent ainsi que leurs conditions de travail sont meilleures en France. L'intérêt strictement professionnel est, dans notre cas, meilleur en France. Au Luxembourg, enfin, on ne vous parle toujours pas bien, mais avec le salaire qu'on vous donne, vous êtes invité à sourire en retour, explique Marjorie. Cette tendance observée en Lorraine ne remet pas en cause l'attractivité du Luxembourg. Le nombre de frontaliers français pourrait même dépasser les 160 000 dans 10 ans contre 120 000 actuellement. Néanmoins, de plus en plus de frontaliers désirent construire une vie familiale moins contrainte par les trajets quotidiens. En plus des revenus et des allocations familiales, une année de cotisation au Luxembourg est jusqu'à 5 fois plus avantageuse qu'en France. De plus, la législation luxembourgeoise oblige les employeurs à augmenter les salaires en cas d'inflation. C'est donc un choix à faire pour les frontaliers en fonction de leurs priorités.
Des nouveaux antibiotiques ont été découverts à l'aide de l'intelligence artificielle par des chercheurs américains. Ce sont les premiers depuis 60 ans pouvant répondre à l'antibiorésistance. Ces nouveaux médicaments permettraient de tuer les bactéries résistantes. Leur toxicité est très faible. Ils pourraient notamment lutter contre la staphylocoque dorée, une infection bactérienne très résistante aux antibiotiques. Les infections bactériennes représentent la deuxième cause de décès dans le monde. Après les troubles cardiaques, cela pourrait alors sauver la vie de nombreuses personnes. C'est l'IA qui a permis de tester 39 000 composants et de passer en revue 12 millions de substances déjà disponibles. Testant les possibles propriétés antibiotiques et leur toxicité pour l'humain, c'est ainsi que les chercheurs ont pu isoler deux molécules testées au préalable, dont les résultats ont montré leur efficacité. En effet, la présence de staphylocoque doré résistant a été divisée par 10. Une famille de molécules jusqu'ici méconnue pour son activité antimicrobienne reste encore à tester et ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche pharmaceutique. Lutter contre la surconsommation d'antibiotiques responsables de l'antibiorésistance reste essentielle.
Voici ce qu'il se passe en France. La France prépare l'avenir de son mix énergétique et se trouve à la croisée des chemins. Entre ses objectifs climatiques qui nécessitent d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, son parc nucléaire vieillissant et le développement des énergies renouvelables, les décisions doivent se prendre sans tarder pour dessiner notre futur énergétique. Au cours d'une interview donnée à la Tribune dimanche 7 janvier 2024, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a déclaré qu'il était nécessaire d'aller au-delà des 6 premiers EPR annoncés par le président de la République. Pour 2050, nous avons besoin de l'équivalent de la puissance de 8 générateurs additionnels, a déclaré la ministre sur France Info avant d'ajouter « Qu'on soit clair, on rajoute de la production nucléaire, elle doit être décidée en 2024-2025 pour être effective en 2050 ». En réalité, cette déclaration n'a rien d'une surprise. Dès son discours de Belfort prononcé en février 2022, Emmanuel Macron avait annoncé ses intentions sur le futur mix énergétique, accélérer le développement des énergies renouvelables tout en redynamisant la filière du nucléaire. Sur ce dernier point, il était question de lancer la construction de 6 nouveaux EPR pour une première mise en service en 2035 et d'étudier la possibilité d'en construire 8 supplémentaires ensuite. La récente déclaration de la ministre de la Transition énergétique n'a donc rien de nouveau. Mais elle fait grincer des dents auprès de l'association Negawatt, dont le porte-parole s'est exprimé dimanche sur France Info. Il craint qu'en misant sur le nucléaire, le gouvernement s'éloigne du plan de sobriété impliquant de réduire nos consommations. En effet, c'est parce que la France s'est trouvée en difficulté avec des pannes inopinées de son parc nucléaire vieillissant et des incertitudes sur son approvisionnement en gaz que le gouvernement a lancé une grande campagne en faveur de la sobriété énergétique à l'approche de l'hiver 2022-2023. On en entend beaucoup moins parler cette année alors que les risques de coupures se sont éloignés. La construction de nouveaux EPR flambant neufs augmenterait la production électrique, rendant moins nécessaires les efforts en matière de réduction des consommations. Selon l'association Negawatt, qui semble toutefois oublier l'indispensable électrifiant des usages aujourd'hui indépendants des énergies fossiles, l'avenir nous dira si ces craintes sont fondées. Enfin, rappelons que le récent accord de la COP28 à Dubaï mentionne le nucléaire comme le levier pour atteindre la neutralité carbone, et la France ne compte pas s'en priver. La renationalisation d'EDF a justement pour but de remettre l'énergicien tricolore à flot afin qu'il en soit en mesure d'atteindre ses objectifs en matière d'accélération du nucléaire.
Elisabeth Borne, notre première ministre, vient de démissionner et va prochainement être remplacée. Au total, la ministre aura eu recours 23 fois au 49-3 et y laissera sa popularité. Elle a réussi à faire voter une soixantaine de textes. Ce choix de démission pourrait venir d'Emmanuel Macron qui voudrait réunifier le gouvernement déchiré par l'adoption de la loi immigration. Le nom du prochain premier ministre devrait être annoncé aujourd'hui. Gabriel Attal, l'actuel ministre de l'Éducation, part favori.
Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment entre compagnie. Nous nous retrouverons prochainement pour une nouvelle émission. En attendant, vous pouvez réécouter le podcast ainsi que les précédents sur radiocampuspo.fr et vous pouvez suivre Radio Campus Po et Campus Mac sur Instagram. On vous y attend nombreux et nombreuses. En attendant, on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée.